Comment vas-tu? Oh là là, t'as
nuit.
Le Nagra?
Oh non, c'est pas.
J'ai écouté cette
c'est,
nuit,
c'est pas le niveau du Nagra, mais ça marche bien quand même.
J'ai écouté. Il y a un reportage sur France Q sur le Nagra.
Ouais.
L'histoire du Nagra,
ouais,
ça,
ouais.
C'est passionnant.
Bah ouais, ouais, et puis c'est un son de ouf.
Allez, on va aller là-haut.
Ouais.
Le café qui nous attend.
Ça marche.
Hop.
Je me permets, je passe. Hein. Ouais. Salut.
Elle passe sa tête par là.
Ramsey
Store. Ouais, c'est ça.
Ouais, très bien, super. Je vois que t'as préparé.
Les méchants.
Ouais, bah je vais m'installer là-bas. De toute façon, j'ai quelques petits trucs à installer, donc prends ton temps.
Et si on prenait le temps? Le temps d'une rencontre, d'une discussion, d'un portrait sans l'image mais avec le son. Crise climatique, écologique, économique, sociale, migratoire. Comme tous les gens de sa génération, né à la fin des années 80, Adèle France n'a jamais rien connu d'autre qu'un monde en crise. C'est ce monde qui s'effondre qu'interroge les spectacles de Canopée, la compagnie qu'elle a créée en 2011. Un théâtre qu'Adèle veut populaire, de narration, plongeant à pieds joints dans notre époque, pour mettre des mots sur la colère légitime qu'elle provoque. Formée à la Comédia dell'Arte et à l'art du clown, privilégiant le langage du corps, elle se fait tour à tour comédienne, conteuse, auteure, chanteuse, slameuse ou pédagogue, avec toujours le rire et l'humour comme arme de dérision massive. Comment continuer à espérer à l'heure des extinctions de masse, de Trump, des data ou de Tesla? Comment se lier autrement au vivant, au monde et à ses habitants, l'œil ouvert et le cœur battant? Elle se range définitivement du côté des militants, de tous ceux qui se battent pour rendre notre monde plus tendre. Bonjour Adèle.
Salut.
Ça va?
Oui, merci pour ce début, ce beau portrait.
De rien. Tu nous accueilles ici au théâtre Jean Massé, à Laval, siège de la compagnie du théâtre du Tiroir, qui assure la gestion et la programmation de ce lieu, auquel ta compagnie Canopée est cette année associée. En quelque sorte, ici, c'est un peu ta seconde maison.
Oui. Quand je suis arrivé ici, oui, t'as raison. Je me suis vraiment dit, tiens, mais je suis comme à la maison. Je me suis senti très vite accueilli par Jean-Luc et tous ceux qui travaillent avec lui.
Donc Jean-Luc, c'est Jean-Luc Bansard.
Jean-Luc Bansard, oui.
Donc le directeur
qui ne connaît pas.
Qui ne connaît pas Jean-Luc. Le directeur de la compagnie du Théâtre des Tiroirs.
Oui, voilà. Et je dirais qu'il fait une programmation et il ouvre aussi beaucoup d'espaces de réflexion justement sur les thèmes dont tu as parlé en introduction. Et du coup, je me suis vraiment tout de suite reconnue dans toutes les valeurs qu'il défend. Ouais, on est là dans l'antre de la défense des droits de l'enfant. Il y a aussi des mercredis pour la paix en Israël, en Palestine. Et donc ça m'a tout de suite, je me suis reconnue assez rapidement. Et voilà, et puis il m'a vraiment ouvert son espace.
Ça veut dire quoi être compagnie associée? Ça veut dire que tu peux ici travailler. Alors on est dans un espace de travail, justement dans une salle de répétition. On est à l'étage. Au rez-de-chaussée, il y a le théâtre, donc j'imagine que tu peux aussi travailler, faire des résidences et puis présenter ton travail.
Ouais, complètement. C'est finalement toutes les propositions qu'on fait d'actions qu'on peut faire ici, que ce soit de jouer nos spectacles, d'espace de travail, ce qui est quand même... moi qui viens de région parisienne, franchement, les espaces comme ça, c'est inespéré. Enfin, on est... C'est très très précieux d'avoir des espaces comme ça, un vrai théâtre en bas avec tout ce qu'il faut pour rêver. Et aussi, à chaque fois qu'on veut proposer quelque chose, il est ouvert en fait.
Il est open.
Que ce soit atelier, spectacle et création. Ouais. Et on crée ensemble en fait. Ouais. Là, on a créé un spectacle ensemble. Donc oui, c'est un grand partenariat qui commence.
C'est ici que ta compagnie a trouvé ancrage. C'est ici que tu as trouvé asile, en fait, quand tu as déménagé, quand tu es arrivé ici en Mayenne en 2022. Toi, tu es une exilée de la région parisienne, tu le disais, de Nanterre.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a amené ici en Mayenne particulièrement
Oui, en Mayenne, pourquoi la Mayenne? C'est vrai que.
Qu'est-ce que t'as trouvé ici qui t'a attiré?
Oui. Bah, à la base, c'est mon frère qui est maraîcher, qui s'est installé en tant que maraîcher il y a quelques années déjà. Et il est vraiment dans la campagne à Bourgon, à côté du Bourgneuf-la-Forêt.
Ah, c'est à l'est du département. Voilà. À l'ouest du département.
À l'ouest, exactement.
À la frontière avec l'Ille-et-Vilaine.
Ouais, il s'est installé et là, il y a eu le Covid, donc je suis allé l'aider. J'ai fait du maraîchage, voilà. Et on a toujours rêvé d'avoir un lieu ensemble qui mêle à la fois maraîchage et théâtre, qui soit hybride, quoi. Mmh. Et un jour, il m'appelle, il me dit « Adèle, la ferme juste à côté est en train d'être
se
en
libérer,
vente, de
ouais.
se libérer. Ouais. Va voir. » Et quand je suis allé voir, ben... J'ai tout de suite adoré. Donc voilà, on a des bâtiments en attente d'être de soins.
Ouais, ils sont en travaux en ce moment.
C'est... Oui, c'est des travaux, il y a beaucoup de choses à faire. Mais on imagine un petit théâtre. On imagine un petit théâtre là-bas. Mmh.
En tout cas, tu y habiteras.
Et j'y habiterai, ouais, ça ouais, c'est sûr. Ouais.
Et c'est d'ailleurs à Bourgon, un petit village de 840 habitants, c'est ça?
Je ne sais pas.
Je crois, j'ai cru voir ça.
Oui.
Un petit village en tout cas. Que la compagnie, donc c'est là que la compagnie Canopée organise très bientôt, le 5 et 6 avril, un week-end sous la Canopée. C'est le nom de cette fête, de ce micro-festival, avec plein de rendez-vous musicaux, théâtraux, mais pas que. On pourra en reparler plus en détail, mais pas de précipitation. On va y revenir au cours de cette émission que nous allons avoir le plaisir de passer ensemble avec Adèle Frantz. Les présentations sont faites. Transistor l'émission, c'est parti.
Aunque soy un te quiero. Corazón blando caramelo, merezco amores de vereda. Un beso dulce en la mañana y que me mire por la ventana cuando yo salgo a pasear. Yo quiero de los que no hacen sufrir más, un amor del verdadero que sea un sueño muy real, un amor como el primero, pero que dure hasta el final, un amor tan dulce y tierno que me dé ganas de cantar. Mi alma es tuya, bájala de la cruz. Si yo soy luna, tú eres el sol que me da luz. Mi alma es mía. Bajaré de la cruz. Si yo soy luna, tú eres el sol que me da luz.
Corazon Caramelo, la tendresse à l'état pur de November Ultra, un choix parfait de notre invitée Adèle France. Cette voix, c'est celle d'une mère, d'une sœur, me disais-tu,
oui.
pour m'évoquer cette chanson. Est-ce que la musique, elle a pour toi des vertus consolatrices, justement, protectrices? C'est une amie.
Oui, complètement. Pour moi, la musique, c'est vraiment le retour à soi, quoi. Ça me permet de vraiment revenir à moi, à mes sensations, mon corps. Et puis, de manière plus globale, c'est un espace de rassemblement, quoi. Et
tu veux dire de public, on est ensemble, ouais. À avoir quelque chose.
C'est une action qui est directe, quoi. Il n'y a pas à se poser de questions, c'est sensible, sensitif, tout de suite, même si on ne comprend pas les paroles.
Ça
ne
passe
reçoit...
pas par la case cerveau.
Non, on reçoit le chant, on reçoit. Okay. Et ce chant-là, il me fait beaucoup pleurer.
Est-ce que cette relation à la musique, elle remonte à loin, à l'enfance? Est-ce que tu, enfant, déjà, tu as eu comme ça des moments, des chocs musicaux?
C'est plus le chant que la musique, je crois. Et comment le chant, je pense que c'est pas tant dans l'enfance. Enfin, oui, j'écoutais de la musique, mais c'était un peu de la musique de...
bof,
pas ouf, franchement pas ouf, Britney Spears, mais dès que j'ai commencé à me former en théâtre, et j'ai découvert la puissance de la voix et la puissance des chants polyphoniques, et ça c'est très très puissant, très fort.
Ouais, parce que tu chantes aussi.
Oui, à chaque fois, je pense que dans tous mes spectacles sont en fait des prétextes à chanter. Et je me dis, je me suis peut-être un peu planté de voix. Oui, je pense que mon rêve ça aurait été d'être chanteuse. Mais
la chanteuse frustrée.
Ah oui.
La chanteuse frustrée fait du théâtre.
C'est ça. Ouais. Donc faut assumer maintenant qu'il faut que je sois chanteuse.
Alors tu as grandi non pas ici ni à Paris, mais dans le sud de la France, à Toulon, près de Toulon,
oui.
À la campagne, près de la mer.
Oui.
Est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à avoir une pratique artistique, théâtrale peut-être? Comment ça démarre tout ça et comment tu viens à tout ça?
Ma mère a essayé de me mettre en atelier gymnastique. Elle a vu que j'arrivais pas à faire une galipette. Donc elle a dit non, on va la sortir de là. Et je sais pas pourquoi, elle m'a mis au théâtre. Elle m'a mis en atelier théâtre, mais j'avais 5 ans, quoi. Donc,
peut-être que t'avais déjà un truc.
Je sais pas si c'est elle qui s'est dit, oh tiens, on essaye ça comme ça. Oui, et que je sais pas si elle s'est rendue compte.
Elle a senti un don en toi.
Peut-être, je sais pas s'il y a 5 ans, on s'en fait.
Ah.
Tous les enfants, ils sont... Bon, c'est vrai que non, il y a des enfants, ils se démarquent un peu. Quand on a des ateliers pour enfants, on voit qu'il y en a qui sont complètement pris, quoi.
Justement, t'as été prise? Est-ce que tout de suite, le théâtre, la pratique du théâtre, l'atelier théâtre, ça a été une révélation?
Ouais, tout de suite, j'ai adoré être sur scène, être vue, être entendue.
Est-ce que t'es la dernière de la famille?
Non, je suis la deuxième.
Ok.
Je suis la deuxième.
Parce que des fois, il y a le petit dernier qui veut exister, justement.
Oui. Non, mais je pense clairement que c'était une façon de me démarquer, de continuer à faire du théâtre. Et j'ai grandi dans un environnement où on laissait pas beaucoup la place aux mots, au fait d'exprimer ce qu'on
son ressenti,
son vécu. Et du coup, je pense que c'est comme ça que je prenais un peu ma revanche par rapport à ça. Maintenant, je dis ce que je pense devant beaucoup de gens.
Ouais. C'est ça que t'as aimé enfant et que tu continues d'aimer, c'est un lieu d'expression.
J'ai la sensation d'être beaucoup plus vaste quand je fais du théâtre, de pas être enfermé dans des préconçus sur ce que je pourrais être ou voilà. Et je le sens chez les autres aussi.
Comme si t'étais plus libre.
Ouais, c'est vraiment une liberté. Après, la liberté sur le plateau, c'est pour moi tout un chemin pour arriver à sentir une liberté, mais une fois qu'on peut la toucher du doigt de temps en temps, là, on est accro.
Tu veux dire que nos parents, je sais pas, les enseignants, la société, elle nous enferme dans quelque chose, dans un rôle, dans un cadre, et qui parfois en fait on endosse et que c'est pas vraiment nous.
Je pense. Quand je dis que c'est que, par exemple, quand je fais des ateliers pour les adultes, en fait, je suis très fier en fait de me dire que j'ouvre un espace pour que les gens se rencontrent autrement. Que déjà en parlant, mais par le corps, et en se disant « Ah tiens, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou qu'est-ce que tu fais comme métier, ou tu vas pas être catégorisé. Ouais. Mais comment tu bouges, c'est quoi ton énergie. Et là, il y a plein de choses. Et je vois les profs ou qui me disent « Ah, tel élève, c'est complètement révélé. J'avais pas du tout compris qu'il était comme ça, en fait. » Et donc, bon, ça arrive très, très souvent.
Ouais.
Voilà, donc ça se révèle. Il y a une révélation. Voilà. Qui s'effectue au plateau, je trouve, qui est très forte. L'ordre de l'énergie.
Et toi, c'est une révélation que tu vis et à quel moment tu te dis c'est plus qu'un loisir ce que je suis en train de faire et j'aurais envie d'aller plus loin et d'en vivre et de faire mon métier de ça.
C'était très tâtonnant. Je voyais des gens il y a 18 ans, ils étaient déjà là. Moi, je vais être comédienne, même avant. Et moi, pas du tout. J'ai d'abord beaucoup tâtonné. J'ai pas du tout fait tout de suite ça après le bac. J'ai fait une année de médecine. Enfin, c'était l'enfer, mais vraiment. Et c'est là où l'art du spectacle, la fac d'art du spectacle, m'a beaucoup aidé parce que ça a permis à mes parents de se dire, bon, ok, elle cherche, elle est à la fac, ça se trouve, elle peut devenir prof. Ce qui n'était pas trop pour...
les études artistiques.
Ouais. Ça leur faisait peur, je pense, et, comme beaucoup de parents. Et du coup, ça m'a permis, en art du spectacle, d'arriver à tâtons, d'essayer de comprendre où je pouvais mettre les pieds.
Parce que ça pouvait te former aussi à un métier dans le domaine culturel ou artistique, mais pas forcément d'artiste.
Ouais, complètement, c'est pas resserré, c'est encore très ouvert, très vaste. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Maintenant, il faut que tu te prennes en main et que tu ailles dans une école, que tu te formes en tant qu'actrice. »
Parce qu'eux, ils pensaient que t'étais OK pour ça.
Ils voyaient que j'avais juste besoin qu'on me pousse, quoi, qu'on me...
En fait, t'en avais envie, mais tu n'osais pas y aller.
Oui, je pense que ça transpirait de moi, mais je n'osais pas ouvrir la porte. Je n'osais pas me dire que potentiellement, je pourrais en faire mon métier. C'était difficile pour moi de me dire ça.
Et donc là, tu vas rentrer dans une école vraiment de théâtre.
Ouais.
Une école qui est dirigée par Carlo Bozzo. C'est l'école internationale des arts du spectacle. C'est aussi en région parisienne. Pourquoi tu diriges vers ça? Est-ce que c'est une forme de théâtre, je ne sais pas si on peut dire classique, mais voilà, la Commedia dell'arte. Qu'est-ce qui t'attire vers ce...
Déjà, j'avais eu des très très bons retours de cette école, notamment un comédien qui travaillait avec Peter Brook. Qui avait parlé de cette école. Donc pour moi, c'était
Peter Brook, un peu la grande figure du théâtre.
Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller faire la porte ouverte. Et en fait, ce qui m'a plu, c'était le lieu. Le lieu m'a beaucoup plu, l'audition aussi. Et en fait, je ne suis pas du tout allé pour faire de la comédie d'art. Enfin, je suis allé pour, pour les gens que j'ai rencontrés là-bas. Et voilà. Et c'était...
C'est une bonne raison.
Oui. Mais c'était super. Super, vraiment, ça m'a beaucoup appris.
C'est à ce moment-là que tu deviens vraiment une comédienne et que tu apprends ce métier. Ou non, ça vient plus tard aussi avec...
C'est pas du tout là où je me dis, quand on me demande ce que je fais, je dis pas je suis comédienne. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps avant que je dise, oui, moi bonjour, je suis comédienne.
Je suis élève.
Oui, ça prend du temps. Enfin, la légitimité chez moi, ça a pris beaucoup de temps.
Donc ça dure 3 ans et c'est ça?
Non, ça a duré 2 ans, mais j'ai arrêté avant la fin.
D'accord. Parce que à ce moment-là, tu montes ta compagnie.
Oui.
Très tôt, quoi. En 2011,
ouais.
La fille, elle sort de l'école, elle finit pas l'école et elle monte sa compagnie. Pourtant, elle est pas confiante, mais...
Dès qu'on commence à sortir de l'école et à vouloir travailler, en fait, il faut monter une structure pour pouvoir te payer. En fait, et du coup, on a créé cette association avec Giuseppina, donc qui faisait partie de ma promo, qui est sortie de l'école en même temps que moi. On a dit, vas-y, on fait notre truc. Et donc, on avait déjà un spectacle pour enfants de contes qu'on a travaillé, tout ça, et qu'on a joué quelques fois. Et voilà, donc c'est né de ça. De cette envie de faire quelque chose ensemble. C'était une famille pour moi, Josie, à ce moment-là.
Ouais. Et il y a une rupture qui fait que tu vas partir loin, tu vas t'exiler encore à Singapour, voilà, faire une école de théâtre.
Oui. Il y a eu toute une période où je me suis dit, en fait, l'école que j'ai faite de comédia, ça travaillait beaucoup sur l'énergie, la voix. mais pas trop en profondeur. Et j'avais envie de travailler plus en profondeur, donc je suis parti. J'avais envie de bouger à ce moment-là.
Direction l'Asie, carrément, quoi.
Oui,
t'es pas la porte à côté, tu vas à l'autre bout du monde.
Et là, c'est toujours avec une prof que j'ai rencontrée à Paris qui m'a parlé de cette école. Mmh. Donc c'est toujours par relation où je me suis dit, tiens, il y a eu cette opportunité-là de partir. Et donc je suis parti.
Mmh. Et qu'est-ce que t'apprends là-bas?
Déjà, j'apprends...
Là, c'est en anglais, c'est un autre monde, quoi.
Ouais, c'est en anglais, ouais, j'ai adoré, c'était complètement interculturel, c'était incroyable. Des formes traditionnelles, plutôt des formes codifiées traditionnelles, donc là vraiment ouais. Comment ton corps se rentre dans un moule, pour le coup, pour faire c'était presque de la danse, tu vois, du no japonais, du théâtre indonésien.
Très corporel.
Mmh. Ouais, voilà, elle travaille toujours avec les masques, la contrainte du corps dans un personnage. Voilà, et puis beaucoup, il y avait du clown aussi. Et là, le clown, ça m'a beaucoup, beaucoup porté aussi, à ce moment-là.
Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande ta fable avec claque comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfant. Pas imagine un mur et un poli. La rage, car impossible et cette paix d'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur
est à soi.
Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Rien
ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse,
passons
tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde. J'y adhère, parce que tous leurs chants OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage
car ce monde voit rouge mais de grisailles entourées. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité.
La rage
car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple,
l'ébullition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis,
la rage salvatrice de Kenny Arcana, une fille en colère qui fait pleurer autant qu'elle donne de l'espoir, à notre invitée Adèle Frantz. Parlons de la colère, Adèle, justement, si tu veux bien, car c'est un mot qui revient parfois dans les textes qui évoquent ton travail. T'es une fille en colère aussi, comme Kenny.
Ouais, je me reconnais pas mal, mais c'est vrai qu'on sait pas trop quoi en faire de cette colère. Ouais. Et du coup, moi, mon vecteur de transformation de cette colère, c'est écrire des spectacles et les partager. C'est ma façon à moi. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, c'est quoi l'impact Mais bon, c'est la seule chose que je sais faire. Je sais pas comment...
Et d'où elle vient cette colère? Qu'est-ce qui te met en colère?
Qu'est-ce qui me met en colère? Je pense la domination, quoi, sous toutes ses formes. Ce qui me met très en colère, c'est la maltraitance des enfants. Ça, c'est un truc qui me... Ouais, que je comprends pas. Enfin, évidemment, personne comprend, mais bon. Et puis que ça soit systémique aussi, qu'on le choisisse comme une façon d'être ensemble, quoi. Mmh. Tout ce qu'on a mis au grand jour là, avec MeToo, avec aussi l'inceste, l'ampleur en fait des incestés qui commencent à parler, qui commencent à révéler en fait à quel point on est vraiment pourri par ces formes de violence qui sont dans la famille. Et puis de manière plus générale, la domination du système capitaliste, ça c'est quelque chose de très... Voilà, donc je me suis très vite fighté hein, contre les gens de ma famille, on n'est pas tout le temps d'accord, enfin on est carrément presque pas jamais d'accord. Voilà, les grands-parents qui sont très conservateurs et racistes aussi... Ouais, ça c'est quelque chose qui m'a toujours... Je me suis dit comment on peut être doux et grands-parents doux et d'une douceur pour et penser qu'il y a des humains qui sont plus ou moins bien ou plus ou moins égaux, quoi. Enfin, ça m'a toujours... Voilà.
Et cette domination, elle dépasse le champ d'humain à humain? C'est la domination aussi de l'humain sur le non-humain, sur le vivant, sur la manière dont il a fait objet.
Oui, oui.
Ce qui est un sujet, ce qui est un animal, ce qui est un arbre, ce qui est la terre qui nous porte, qui est devenue qu'un objet inerte.
Oui.
C'est ça aussi, je crois, qui ça va plus loin que tout ce que tu as dit, j'ai l'impression.
Oui, oui, clairement. Oui, ça porte sur toute forme de vie qu'on a du mal à prendre en compte. Hein. Mais même moi, en fait, je reconnais que...
On est tellement formaté par ça.
Oui, clairement. Enfin, moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a tout ça. Hein. Enfin, il y a l'incesteuse, il y a la capitaliste. Enfin, je sais que je suis faite aussi et que c'est aussi une lutte, quoi. Enfin, quand je me surprends à parler mal aux gens parce que j'ai pas le temps ou parce que, en fait, oui, on a tout ça à l'intérieur, quoi. Et oui, il y a une sorte de moule et le rapport à la nature. Je trouve que, enfin, chez moi en tout cas, il n'est pas du tout assez concret, assez développé. Et c'est quoi la nature d'ailleurs? C'est un espèce de pack qui est plus un fond d'écran qu'une réelle concrétude, quoi, de quelque chose. Voilà, et donc, dans les spectacles, j'essaye de chercher ça, de poser ces questions-là. Quoi.
Les questions... écologiques, les questions climatiques, ces questions-là qui sont peut-être les premiers sujets aujourd'hui, parce que c'est notre avenir à court terme qui est posé. La question de notre avenir à court terme qui est posée, ça a beaucoup nourri ton travail dès le début de la compagnie Canopée. Si c'est pas du tout le seul sujet, bien sûr.
Mais... Oui, c'est pas le seul sujet. En fait, là, au début de la compagnie Canopée, vraiment à ses débuts. C'était plus le système capitaliste dont on avait envie de parler et on le rattachait à l'écologie, mais en 2011 on en parlait beaucoup moins, enfin, et en fait c'est au moment où Luigi a commencé à écrire le cabaret de la crise,
donc Luigi Cherry
Louis Di Thierry, qui est donc la personne que j'ai rencontrée, que j'ai re-rencontrée, parce que je le connaissais de la fac déjà, mais il avait 10 ans de plus que moi. Et du coup, il était déjà formé. Et donc, c'est devenu un grand frère, clairement. Et il a dit, il m'a proposé qu'on fusionne nos deux compagnies, parce qu'il en avait une, j'en avais une. On se dit, bon, ça sert à rien d'être tout seul, on se met ensemble. Et,
vous avez formé un duo à travers Canopée.
Bah ouais, on a formé un duo et il a écrit, donc étant docteur en économie politique, il a écrit des sketchs sur la crise, qui est quelque chose qui est censé être une crise, donc qui est censé être passagère, mais qui dure depuis 40 ans, quoi. Et qu'on est là à dire oui, c'est la crise, mais attends, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, quoi, la crise. Et donc voilà, et c'est là où j'ai commencé un peu à faire des liens entre toutes ces choses, à me dire ah putain, en fait on est complètement interdépendant de tout, quoi. Et c'est surtout ces textes qu'on a travaillé et qu'on a mis en spectacle après et qu'on a joué.
Ouais, c'est le cabaret de la crise notamment qui a été joué. Vous avez commencé en 2015, il y a eu plusieurs épisodes,
oui.
Et ça a beaucoup tourné, ça.
Ouais. Oui, on a joué beaucoup, on a fait plusieurs fois Avignon, on a joué pas mal dans les milieux alternatifs au début, parce que c'était les milieux qui nous ont bien voulu. Et puis après, on a quand même, après Avignon, on a quand même, on a joué dans des théâtres, des saisons culturelles, tout ça, c'était très chouette.
Mmh.
Et voilà.
Il y a eu aussi Le Joueur de Flûte, qui est une adaptation du conte Le Joueur de Flûte de Hamelin, le conte des frères Grimm.
Oui, c'est ça.
Et qui, pareil, en fait, est une relecture aussi, une réécriture pour parler de sujets contemporains et notamment de sujets écologiques.
Oui, oui.
Là, vous avez monté ensemble, tous les deux aussi.
Oui, Luigi a écrit et il a mis en scène. Et il voulait vraiment faire une métaphore d'une marée noire avec tous ces rats qui arrivent, et la marée noire étant la conséquence d'un mode de vie complètement inconscient, quoi. Et du coup, on aime bien les contes pour ça, ils préparent au danger, quoi. Ils disent attention, il y a un danger là. Et,
ouais.
et ça parle aussi. Là, Le Joueur de Flûte, je vais le jouer pour une association qui travaille sur la démocratie, qui a vu le spectacle et qui
ça
a dit...
Ça parle de démocratie aussi.
Ah oui, ça nous a intéressé parce que c'est comment... C'est vraiment la difficulté de se mettre d'accord tous ensemble sur une décision. Alors on est tous pas d'accord. Et puis finalement, c'est une décision arbitraire qui prend le dessus. Et ouais, ça parle de ça aussi.
Ouais. Il y a plein de sujets qui sont abordés dans ce spectacle, qui est vraiment brillant, je trouve.
Ouais, merci.
Et... on voit à travers tout ça que pour vous, le théâtre, c'est un, comme on pourrait dire de Bourdieu, la sociologie est un sport de combat. Le théâtre, c'est un sport de combat aussi pour vous. C'est un lieu de débat, d'éducation populaire, d'émancipation, de fabrique de l'esprit critique, qui peut participer à éveiller les consciences. C'est vraiment comme ça, c'est un moyen, quoi.
Ouais, c'est un moyen. Après, je pense que... C'est vrai qu'on vit dans un monde qui n'a pas forcément envie aussi qu'on puisse débattre. Pour moi, il n'y a plus de débat. Les baisses de subventions là, qui ont lieu en ce moment et qui ne vont faire que s'accentuer, à mon avis, c'est aussi une façon de dire... déjà, on méprise complètement le fait que la culture, ça peut aussi faire respirer les gens dans leur vie. Et puis aussi, on n'a pas forcément envie que les gens y réfléchissent trop ou qu'ils se posent trop de questions sur comment ils vivent ou qui et voilà, au contraire, pour nous c'est un bon outil, peut être un bon outil. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ça impacte les gens, encore une fois, si tu joues que pour des gens qui sont déjà convaincus, voilà, donc c'est ça la question, c'est comment tu vas chercher un public qui est pas forcément de ton côté.
Et si la colère, ça peut être le moteur, le rire et l'humour, ça reste votre arme.
Ouais.
On n'est pas dans la dénonciation, on n'est pas dans faire peur.
Oui.
On est plutôt dans faire rire.
Oui. Bah, moi, je me vois pas. Ouais. Alors, je me vois pas faire un... par exemple, soit une tragédie, ça c'est quelque... Je me reconnais pas dans la... Il me faut de la distance. Il me faut de la distance et puis se dire, Faut qu'on rigole de tout ça aussi, quoi. Mais c'est toute la clique de Guillaume Meurice avec Radio Nova. Pour moi, en fait, c'est des gens qui me font énormément de bien quand je les écoute, parce qu'ils arrivent à transformer. Encore une fois, c'est une question de transformation, de colère. Et là, ça devient puissant, très puissant.
C'est puissant parce que justement, c'est pas que du divertissement. Il s'agit pas que de se marrer, en fait. Parce que derrière, c'est hyper fort. En fait, ça dénonce aussi, et ça montre à travers le rire le réel, en fait.
Oui.
Le réel, l'absurdité des situations qu'on vit, en fait, et qu'on nous impose.
Oui.
Et là, en fait, il est caricaturé et il devient totalement criant et évident. Et difficile de prendre au sérieux après un Trump ou je ne sais quoi quand on l'a caricaturé, justement.
Oui.
Quand on l'a montré, c'est ce qui était la vérité, en vrai, en fait, de son grotesque, de son absurdité.
Oui. Mais oui. Bon, je pense que les humoristes, à mon avis, c'est les premiers en prison. Enfin, je veux dire, on se moque pas du pouvoir, quoi. Et j'avais justement le directeur de ma première école, Carlo Bozzo, qui travaillait sur la Comédia, qui disait, en fait, les gens rigolent aussi par réaction, par peur, et ils évacuent leur peur dans le rire. Ils évacuent leur peur, et ça leur...
C'est cathartique.
Et ça leur redonne finalement une sorte de d'espoir d'action. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis en tant que spectatrice. Je me dis, ah, c'est cool, on peut parler de ça, on peut rigoler de ça. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Ouais, ouais.
C'est ce qui est après, le rire.
On l'a dominé, en fait, le sujet.
Voilà.
Ouais. Puis rire aussi, c'est adhérer. En fait, quand t'arrives à faire rire quelqu'un, tu l'as dans ta poche, quoi. Tu l'as avec toi, maintenant.
Ouais.
On est devenus potes. Tu l'as fait rire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu ressens ça aussi?
Quand ça marche, quand mes spectacles, parce que c'est pas toujours le cas, hein, je joue aussi devant des publics qui
rient pas.
Ah non, qui rient pas du tout. Enfin, qui sont complètement. Après, je sais pas ce qu'ils vivent, les gens, mais. Après, c'est pas forcément parce qu'ils rient pas qu'ils reçoivent pas. Enfin, bon, là, il faut rester calme. Parce que j'écris quand même pour que ça soit drôle, mais c'est vrai que des fois. Et souvent, et quand ça rit, là, c'est vraiment, on sent qu'il y a un partage très puissant. Là c'est ultra puissant, quoi, ce qu'on peut vivre collectivement quand ça rit.
Nouvelle pause musicale dans cette discussion passionnante avec Adèle France, le temps d'aller respirer l'air sauvage des montagnes corses.
Che la gru sci la sorgente tra fiori e monumenti che dall'alba allo sereno corrigori il doene u gran fiume l'amore senza guno sci d'errore o di burterà di lagrime oro scoli d'argento di raggi innocenti Rena maestosa di scarpa da luminosa, tutto il mio mondo, con lo stinto profondo, che la gre, c'è la sorgente tra fiori e monumenti che dall'alba allo sereno corrigori, il duene un gran fiume l'amore. Senza cunò, c'è d'errore alla viumara, chi spenderà la viara, senza sentenza, tanto canteremo, a falisente le nostre resumente, tutto il nostro mondo, con lo stinto profondo, che la gre. La sorgente tra fiori e monumenti che dall'alba allo sereno corrigori il dovene un gran fiume l'amore senza guno c'è d'errore che la cresci.
La chanteuse Kuchata, dont je te laisse prononcer le titre, Adèle. Superbe accent corse.
Sorgente d'amore.
Ouais. une chanteuse que tu as rencontrée, Adèle, à l'occasion d'un spectacle que tu as joué en Corse.
Oui.
Et qui te rappelle aussi toutes les rencontres que t'ont permis de faire les spectacles que tu as pu donner un peu partout en France avec ta compagnie, Canopée, mais aussi avec celles avec lesquelles tu travailles, parce que tu collabores aussi avec d'autres projets, d'autres compagnies. Et est-ce que c'est aussi ce que tu aimes dans ton métier, justement ces voyages et ces rencontres et tous ces déplacements du coup que ça suscite, qu'il suscite ce métier?
Oui, oui. Pour moi, de faire du théâtre, c'est une façon de rencontrer les gens, quoi. Clairement, quoi. Que ce soit aller rencontrer des lieux. Et quand tu arrives dans un endroit, par exemple, quand je suis arrivé en Mayenne, comment tu rencontres les gens? Tu peux te dire, je vais à un atelier peinture ou je sais pas où je... Et bon, il faut que tu bosses quand même. Mais en fait, il faut tout construire.
T'arrives ici, tu connais personne.
Et donc, les spectacles sont un prétexte pour aller rencontrer des gens et se faire des amis. Clairement, se faire des amis, c'est comme ça que je me suis fait des amis, quoi. Et je saurais pas trop comment faire autrement.
Et ouais, c'est aussi de ça qu'on se nourrit en tant qu'artiste. C'est des rencontres, des gens qui peut-être peuvent inspirer des choses aussi parfois. Ou...
Oh bah oui, clairement. Mais
des personnages, ça.
Ouais, clairement. Il y a aussi des gens qui viennent à la fin me voir en me disant « Vous avez lu tel livre ?» Ah oui, vous devriez lire ça. Ou vous m'avez fait penser à telle personne. Ou alors, qui font des recoupements avec soit des bouquins, soit des... Et c'est très chouette. Et t'as aussi tout le partage qu'il y a en amont du spectacle, des gens qui t'invitent. Et à chaque fois, tu partages un repas. Enfin, c'est hyper convivial. Mmh. En fait, les spectacles sont de nature conviviale, de toute façon.
J'ai remarqué que tu étais une bonne imitatrice tout à l'heure. Avant qu'on commence l'émission, tu imitais quelqu'un. Est-ce que c'est un truc que tu sais faire, ça, d'aller piquer? Tu vois des gens, hop, tu chopes des expressions, des façons de parler. J'ai remarqué que on se connaît pas bien, mais déjà, je vois comment tu... Et est-ce que c'est... Je reviens à ce que je disais avant. Est-ce que c'est aussi dans ta vie comme ça que tu vas piquer? Est-ce que quand on est acteur, on est un peu imitateur? Est-ce qu'on est observateur de tout ce qu'on a autour de nous et on veille un peu et hop, peut-être inconsciemment,
Ce qui est sûr, c'est que le petit déclic qui se passe quand on monte sur le plateau et que moi, en tout cas, je joue des personnages, c'est très vivant. Il y a un truc de l'ordre de la vie. Et quand je raconte des anecdotes, en effet, j'aime bien prendre des voix et tout, parce que ça prend. Enfin, je sais que ça prend. Et
ouais,
que...
mais c'est drôle parce que du coup, on a l'impression que c'est même plus toi là. Quelqu'un d'autre qui est là dans la pièce.
J'ai un personnage qui revient souvent, la grand-mère. Elle revient très souvent dans mes spectacles parce que j'adore jouer la grand-mère. Et j'en parlais à un copain, il me disait. Et je lui disais, elle est beaucoup plus en forme que moi. Et donc elle est en moi, mais elle est beaucoup plus en forme. Donc elle peut avoir un effet sur moi très puissant. Mais voilà, il y a des gens à la fin des spectacles qui viennent me voir en me disant, messieurs, vous n'êtes pas un petit peu schizophrène, parce que là vraiment c'est vraiment bizarre, quoi, quelqu'un comme. Mais voilà, et moi ça me
mais
donne
c'est
beaucoup
ça, un comédien,
d'énergie.
On est un peu schizophrène quand on est comédien quand même.
Ouais, carrément. Oui, clairement. On est quelqu'un d'autre à un moment, ouais. C'est clair.
Ouais. Finalement, ils ont raison.
Oui.
T'es un peu folle. Je rigole. Oui. En 2022, tu vas créer un solo, Radio Reclaim, qui va être le premier spectacle que tu écris. En fait, un peu émancipation, puisque tu avais travaillé, on l'a dit avant, avec Luigi Cherry, qui, comme tu disais, t'es un peu un grand frère. Et là, tu prends un peu ton envol, tu t'envoles de la canopée pour créer ce spectacle, Radio Reclaim, où tu endosses le rôle d'une dizaine de femmes qui prennent la parole, et donc le pouvoir, le temps d'une émission de radio. Comment il est venu, ce spectacle-là, et pourquoi ce thème-là, en fait? J'imagine qu'il y a une thématique autour du féminisme. J'ai pas vu le spectacle, mais ça me semble.
Oui.
Et en même temps, ça aborde plein de sujets, j'ai l'impression.
Oui, j'ai lu Mona Chollet, Mona Cholet qui a écrit Beauté fatale, qui est un livre assez ancien. Enfin, c'est un de ses premiers livres, je sais plus. Mais elle a cartonné avec Sorcière, un livre sur la chasse aux sorcières. Et juste avant, elle a écrit un livre sur la condition de la beauté féminine, comment être belle.
L'injonction
de la beauté, clairement.
Et... quand on est mec, on est moche, on s'en fiche, mais une fille se doit d'être belle.
Oui, c'est ça. Et donc j'ai lu ce livre, et après j'ai une amie, Chloé Latour, qui m'a parlé d'un livre qui s'appelle Reclaim, qui est un terme qui est très utilisé aux États-Unis, qui est d'abord utilisé par les écolos. Reclaim pour dire on va se réapproprier la terre. Reclaim, c'est-à-dire vraiment comment on reprend la terre. Et puis après, qui est utilisé par les féministes dans les années 70 pour se réapproprier leur corps. Et donc, ils font des liens entre écologie, féminisme, et qu'on appelle maintenant écoféminisme, qui est une façon de lire le monde qui est très très riche. Et en plus, on dit pas l'écoféminisme, mais il y a. C'est ce qu'elle explique dans son livre, ça a plusieurs façons d'être écoféministe, les écoféminismes, elle dit. Bon bref, là je rentre dans les détails, mais
C'est intéressant.
Et en gros, ce livre, c'est un recueil de textes écoféministes. Donc elle a rassemblé des textes qu'elle trouvait très pertinents. Et donc moi j'ai lu ça et j'ai fait une lecture à Noirmoutier, on en reparlera sûrement parce que ça a été le repère d'un metteur en scène qui a été très très important pour moi, Pascal Arbeil, et qui a créé toute une association sur le territoire rural de Noirmoutier à Noirmoutier. Et du coup j'ai fait une lecture là-bas de ce livre. Et puis à la fin je me suis dit mais qu'est-ce que j'en fais de ce truc, j'avais envie de continuer. Et ça a mis beaucoup beaucoup de temps à se former dans ma tête, mais en gros j'ai eu plusieurs épiphanies. Une épiphanie en stage de clown pendant une impro où c'était très évident pour moi que j'étais un miracle, donc que je respirais, ma respiration était un miracle, que je pouvais voir, c'était un miracle, toucher, sentir que j'existais, que ça c'était un miracle.
Les conditions de l'apparition de la vie sur Terre sont un miracle, donc c'était pas tout à fait tort.
C'est exactement ça, et c'est ça, et c'est là que je parle de ça dans le spectacle, à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit, comment tout s'est mis en place pour donner la vie. Ça c'est vraiment de la dentelle, quoi, vraiment. Donc c'est un miracle, donc on est des miracles. Donc ça a été une première épiphanie. Et la deuxième épiphanie, c'est quand je me suis dit en fait j'ai plein de trucs épars qui veulent rien dire ensemble, comment je vais faire une histoire. Et là je me suis dit il faut que je fasse une fausse émission radio.
Okay.
Et donc je me suis dit c'est pas qu'on passe du coq à l'âne, mais qu'on peut parler de beaucoup de sujets en même temps avec des supports complètement différents, que ce soit des interviews, des pubs, des reportages, des chansons.
C'était une forme qui te permet de rentrer plein de choses dedans.
Exactement.
Tout en ayant quelque chose de cohérent.
Voilà. Et la cohérence, elle s'est trouvée au fur et à mesure. Et on peut dire qu'il y a une cohérence écoféministe, parce qu'il y a une sorte d'émerveillement pour le miracle qu'on porte la vie, quoi, qui est quand même un truc de fou.
C'est bien de se le rappeler.
C'est bien de se le rappeler dans ce monde. Hein. C'est un truc de taré. Et en même temps, je suis perdu. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus où j'en étais. Mais c'est pas
moi non plus.
Donc en gros, le spectacle, il est né de ça.
Ouais. Et c'est un spectacle que tu as voulu aussi simple, quoi. Le plus léger possible. C'est un solo. Techniquement, c'est hyper simple. Pour pouvoir le jouer partout, on revient à l'idée de la rencontre, d'aller jouer dans des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle, où tu vas d'abord rencontrer l'habitant, celui qui t'accueille, puis ensuite le public, qui ne va pas du tout être dans les conditions d'écoute d'un spectacle classique, dans un lieu où on fait le noir. Et du coup, il y a une proximité qui se crée. Ça vient d'où cette idée de faire quelque chose de très simple et qui puisse sortir des cadres? C'est plutôt quelque chose de subi parce que ça permet d'élargir un peu le champ de diffusion de son projet, ou est-ce que c'est aussi une volonté parce que justement ça ouvre d'autres portes, et ça ouvre d'autres portes de rencontres, de possibilités de rencontres, et de passer un message et d'aller toucher des gens justement pas concernés aussi, comme tu disais avant?
Moi je pense que c'est clairement, t'as bien résumé, c'est subi dans le sens où on manque de lieux pour jouer. Bon, déjà On a commencé, moi j'ai commencé Radio Réclame, j'étais dans un bar à Paris. Donc je jouais dans le bar et les gens ils étaient là, ils prenaient leur verre. Puis, donc il y avait quelque chose où, bon, c'est à l'arrache quoi. Il y a quelque chose à l'arrache. Donc il y a quelque chose qui est subi parce que bah, il faut que nous les artistes on trouve de plus en plus, on se démerde de plus en plus pour trouver des lieux qui nous accueillent parce que ça devient de plus en plus rare. Et à la fois, c'est pas subi. Dans le sens où, où j'ai envie de jouer dans des lieux qui sont pas des lieux de théâtre. Et là, récemment, j'ai quelqu'un qui est... Enfin, finalement, ça m'est arrivé 3-4 fois. Des personnes qui reviennent voir Radio Reclaim, qui l'ont vu en premier dehors. Avec soit du foin derrière moi ou un arbre.
Parce que
ça,
tu l'as fait dans plusieurs fermes en Mayenne, justement.
Ouais. La ferme du Chêneau, la ferme de l'Épervier. Enfin, il y a plein de fermes qui m'ont ouvert leurs portes de manière hyper
généreuse.
Et du coup, ces gens-là qui viennent voir le spectacle en plein air et après qui le voient en salle et disent il manque un truc. Il y a un truc, bon, ça va avoir avec peut-être la thématique aussi, mais ben, moi, je trouve que quand même, dehors, il se passe quelque chose, quoi. Après, on peut pas toujours jouer dehors, mais quand on vient jouer dans une stabule, et que derrière, il y a les vaches, et qu'il y a l'odeur de la vache qui est là, et les gens, ils sont là, bon, il fait un petit peu froid, on met les manteaux et tout, et ben, je trouve qu'il se passe vraiment un truc... où tu transformes le lieu aussi. Tu le transformes et d'un coup, ce lieu-là prend une autre dimension, quoi, qui peut-être est moins quotidienne pour les gens qui travaillent là et plus poétique.
Parlons aussi du conte, puisque c'est une forme que tu as aussi investie. On en a un petit peu parlé avant. En tout cas, voilà, c'est vraiment aussi un domaine dans lequel tu travailles et tu diriges ton travail. Pourquoi cette forme-là t'intéresse? Et puis on peut peut-être parler un peu justement de d'un nouveau spectacle que tu viens de créer, qui est une relecture d'un conte traditionnel russe, l'histoire de Baba Yaga. Voilà, pourquoi le conte? Qu'est-ce que t'en fais, sachant que pour t'avoir vu interpréter un conte aussi, justement le joueur de flûte, on n'est pas dans le conte traditionnel récité, mais tu joues en fait. Tu joues tous les personnages, tu passes de l'un à l'autre. Il y a quelque chose de très vivant. Il y a aussi, j'ai l'impression que tu aimes bien aussi mélanger les choses. Tu disais avec Radio Réclame qu'il y a plein d'éléments différents. Dans le conte aussi, j'ai l'impression que tu aimes bien amener une chanson, un slam, un moment, je ne sais quoi.
Oui. Déjà, les contes me touchent. De manière générale, quand je lis un conte, j'ai souvent l'impression par certains contes d'être touché. Alors ça me touche, je pense, de manière presque...
Inconsciente.
Inconsciente.
Ouais, c'est la conscience qui parle dans le conte. Ouais.
Oui, il y a des thèmes qui sont très touchants, qui me parlent.
C'est pas pour rien qu'ils ont traversé les âges.
Mais oui, complètement.
C'est sans doute qu'ils parlent à quelque chose de profond
et
permanent en nous.
Oui, c'est des histoires très anciennes, ancestrales, très symboliques. Ça travaille beaucoup la symbolique, en fait, les contes. Et du coup, ça, c'est un matériau de base qui est mais fabuleux, quoi. Parce qu'en fait, il est ouvert. En soi, il est ouvert.
Ça te laisse libre.
T'as Baba Yaga, mais t'as des représentations de Baba Yaga, de la sorcière et tout, mais... T'en fais quoi? C'est quoi ta Baba Yaga qui arrive Et je trouve que c'est une matière, une pâte à modeler incroyable, le conte. Déjà, pour s'éclater dans les personnages, il y a quand même moyen.
Faire des grands-mères, là, Baba Yaga, c'est bon.
Il y a de quoi faire. Il y a des archétypes aussi dans les contes qui sont très intéressants. Clairement, là, l'archétype de la sorcière, là, pour le coup, ça m'intéressait beaucoup parce que, voilà, t'as vraiment... l'archétype un peu cliché de la sorcière, et comment tu peux aussi le transformer pour le rendre beaucoup plus
riche,
beaucoup plus vaste en fait, et montrer que oui, il y a une puissance derrière qui est quand même c'est pas juste elle est méchante, quoi. Bon.
Qu'est-ce que t'en fais du coup de ce conte-là, c'est Baba Yaga, pardon. Qu'est-ce que t'en fais? Il y a un côté très clownesque dans cette version musicale aussi.
On est des clowns, ouais.
Ouais. T'es accompagné, tu n'es pas en solo là, tu es
ouais,
avec un musicien,
ouais,
François
avec
Richard.
François ouais. Richard, ouais, qui est musicien et qui est au piano et à la guitare électrique. Mais du coup, on rajoute, lui, il a vraiment un côté punk, il s'éclate dans le punk, dans la voix saturée, il adore... créer des chansons voilà et donc du coup il m'accompagne là-dessus, donc on a rajouté une sorte de côté un peu trash au conte très classique finalement, et donc moi j'assure plutôt la partie jouée avec le côté histoire et classique, et lui il rajoute de la folie musicale quoi là-dedans.
Et justement, c'est un projet sur lequel vous avez travaillé avec justement Pascal
oui.
Arbeil, que tu évoquais tout à l'heure, qui lui est arrivé avec un regard extérieur, un travail de mise en scène, c'est ça ?
Bah, je connais très bien Pascal, donc on a travaillé.
C'est quelqu'un avec qui tu as beaucoup travaillé déjà.
Oui, il m'a inspiré pour beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie d'artiste en tout cas. Et notamment, on arrive à communiquer dans le travail de manière très très fluide, j'arrive à le comprendre très très vite et il me comprend très très vite, et donc on arrive à trouver, et lui il travaille beaucoup sur la symbolique et sur le corps, sur la voix, et c'est ça qui m'intéresse, pas du tout la psychologie, vraiment il y a quelque chose de très direct que je retrouve aussi parfois chez Jean-Luc Bansard, donc il y a quelque chose d'une famille en fait de théâtre très qui est particulière, et donc Pascal est venu travailler avec nous, et je pense que donc tout compte fait ça va être plusieurs contes, et là le conte de Baba Yaga ça a été le premier, il y en aura 4, un par saison. Le conte de Baba Yaga c'est saison d'hiver, donc on le joue samedi, c'est quand même un peu là on s'est dit ouais c'est vraiment limite
l'hiver est l'hiver, un peu terminé, mais bon il fait encore un peu frais,
oui voilà c'est ça. Ouais. Et voilà, donc ça se passe très bien. C'est un bon compagnon.
Alors ce conte, vous le présenterez justement, comme tu le disais, samedi prochain à l'occasion du week-end sous la canopée. Oui. Mais avant d'en parler, dernière parenthèse musicale de cette émission avec le rappeur Kerry James en bonne compagnie.
À notre époque, trop de gens s'entraident pour l'injustice. Ils croient s'aimer, se trahissent, puis se divisent. L'autre parle d'amour véritable. Leila Rami, James, Kerry James.
L'amitié se passe de parole quand tu la vis et que c'est un acquis. À qui veut l'entendre, tes amis, c'est pas ton équipe. L'amitié est née sans raison et avant sans horizon. Mon ami, ce texte est en fait une oraison. Une amitié qui se finit en fait n'avait pas commencé. De vrais liens faits dans le bien amène à se réconcilier. Si le cœur y est, l'amitié envahit la mentière. C'est la matière première qui rend plus riche qu'un diamant terre.
L'unisson de la poitrine
et son absence est la sécheresse du cœur.
Serein et digne.
On avance sans avoir de rancœur lorsque l'on te fait ces cadeaux qui n'ont rien de somptueux. Mais qu'en venant d'un ami, c'est en ce sens qu'ils sont précieux. L'amitié ne se cherche pas afin de tuer le temps. Elle est meilleure quand elle se réserve pour les heures vivantes. Elle est là parce qu'elle est là, non pour combler le vide. L'amitié, c'est l'amour véritable. Elle ne mange pas à la table de l'antipathie. L'amitié a pour cousine la sympathie. Quand elle s'absente, tout le monde empathie. Imagine ce monde si elle est totalement partie. Elle sait les relations humaines et les rend fluides. L'amitié, c'est Dieu qui l'a créée, amin. Elle sert à former une communauté. C'est l'amour véritable, c'est elle, c'est l'amitié.
Là d'où je viens réellement, peu de gens s'aiment. Et c'est pour cela certainement beaucoup de gens s'aiment. L'amour véritable, peu de gens s'aiment. Très peu de gens savent car très peu de gens l'enseignent. Là d'où je viens réellement, peu de gens s'aiment. Et c'est pour cela certainement beaucoup de gens s'aiment. L'amour véritable, peu de gens s'aiment. Très peu de gens savent car très peu de gens l'enseignent.
La vie c'est triste quand t'as personne pour partager. Depuis l'époque des cartables, on s'est tous départagés. T'étais là quand j'allais ou quand j'allais pas. Puis tu m'as fait ça dans mon dos alors qu'il ne fallait pas. Mon cœur est grand, j'ai voulu abriter tout le monde. Puis j'ai appris que les soi-disant amis peuvent vous faire de l'ombre. Peu sont sincères, mais comme c'est ainsi, je me suis fait un cercle d'amis avec la paix pour un signe. Pas besoin que je te prouve quoi que ce soit. Si ça ne va pas, tu peux me trouver où que ce soit. Je suis là pour toi tant que ça peut te faire du bien. Mais me demande pas de te suivre vers un chemin qui m'éloignerait du mien. Tu connais ma vie, mes convictions et mes buts. Si t'es mon ami, sois correct depuis le début. Je t'oublierai pas, toi qui m'as aidé sans cesse. Peu importe ce qu'ils disent, t'inquiète, nous on sait. J'ai la vingtaine et les amis ça compte. Ni père, ni frère, ni sœur, y'a qu'à mes amis que je me raconte. L'amour véritable ne se résume pas qu'à ça. Mais j'ai dans le cœur mes potes d'école et du bac à sable. La vie c'est dur quand t'es seul et mal aimé. Et l'amitié c'est une richesse qui à elle seule m'a aidé. Ce morceau est pour mes amis sur qui je peux compter. Ceux-là même à qui j'ai confié des choses si dur à compter.
Là d'où je viens réellement peu de gens s'aiment. Et c'est pour cela certainement beaucoup de gens s'aiment. L'amour véritable peu de gens s'aiment. Très peu de gens le savent car très peu de gens l'enseignent. Là d'où je viens réellement peu de gens s'aiment. Et c'est pour cela certainement beaucoup de gens s'aiment.
Kerry James, accompagné, vous l'aurez peut-être reconnu, de Diams, dernier choix musical de notre invité Adèle France. Ce morceau, Adèle, tu l'as utilisé dans un spectacle écrit pour et avec des jeunes collégiens. Et c'était l'occasion de dire, et tu en as un petit peu parlé d'ailleurs au début de l'interview, que tu n'es pas juste comédienne, tu es aussi parfois prof, tu te transformes, tu prends ta casquette de prof pour animer des stages, des ateliers, aussi sur la prise de parole, voilà, enfin, tu interviens dans plein de cas différents. Quand tu n'adoptes pas la casquette d'organisatrice aussi, comme tu vas le faire ce week-end avec la belle fête que tu organises à Bourgon, un week-end sous la canopée, c'est la deuxième édition je crois.
La troisième.
Ouais. Un week-end où, donc, le 5 et 6 avril, où vous allez proposer plein de rendez-vous artistiques, bien sûr, mais pas que, d'ailleurs. On y retrouvera justement le conte de Baba Yaga, Tout compte fait, que tu joueras samedi. Et puis, voilà, il y a d'autres rendez-vous, est-ce qu'on peut en parler. T'invites des fidèles, des amis avec qui tu travailles depuis longtemps, dont Pascal Arbeil, dont on parlait tout à l'heure, qui va faire une lecture de L'homme qui plantait des arbres, je crois.
Oui. De Jean Giono, à 11h30 dimanche. Et ce sera... en fait, c'est juste après... On a voulu coupler... On aime bien coupler les spectacles ou les lectures avec une activité qui n'a pas forcément à voir à première vue. Donc toujours dans cette idée d'hybrider aussi les mondes, les marcheurs, les gens qui aiment bien marcher et reconnaître les arbres, ils peuvent aller marcher dimanche à 10h avec Gérard Clouet, qui est spécialiste de la flore et de la reconnaissance des arbres. Et donc à Bourgon, on va aller faire une petite marche. Et en fait, ça va nous mettre aussi dans l'ambiance pour la lecture qu'il y aura après. Et pareil, le samedi, on commence...
On peut dire d'ailleurs que c'est à prix libre aussi, hein, l'entrée.
Le dimanche, ouais. Le dimanche, c'est à prix libre. Ouais. Et le samedi, par contre, l'entrée est payante.
Ça reste abordable.
Oui, voilà. C'est 5€ pour les enfants, 10€ pour les adultes. Et en fait, on a fait une petite formule. Spectacle et concert, c'est 15€. Franchement, c'est vraiment rien. et en fait, on va faire...
Alors là, quand elle parle comme ça, c'est dommage, on a radio, mais en fait, elle prend une tête de vendeuse. J'ai l'impression de me retrouver avec une vendeuse, là. Pas mal. Ça marche.
Je vends d'autant plus que juste avant, il y a toute une après-midi jeu qui est organisé par la bibliothèque. Et il faut savoir qu'à Bourgon, la mairie, elle est incroyable. Je les trouve hyper soutenants par rapport en tout cas à notre arrivée. Ils ont été très soutenants. Ils sont là à chaque fois qu'on fait quelque chose, ils nous soutiennent. Je pense qu'ils sont contents aussi que le village puisse vivre et que la culture puisse arriver aussi jusque dans des endroits où il y en a moins, clairement, il y en a moins qu'en ville. Et quoique, franchement, en Mayenne, c'est quand même très actif. Il y a beaucoup, beaucoup de lieux, de petits lieux.
Ouais.
Et du coup, l'après-midi jeu, c'est vraiment pour les enfants et pour les adultes. Et vous pouvez venir avec votre jeu de société. Et après, il y aura le spectacle, il y aura restauration, il y aura évidemment de la bière ou du café pour ceux qui préfèrent.
Est-ce qu'on peut parler du spectacle aussi? Diana et Gunnar qui joueront donc le soir. C'est Diana Trujillo, c'est une comédienne, mais aussi une danseuse à qui tu travailles depuis longtemps.
de longue date, son compagnon, compagnonne.
Diana, elle est vraiment couteau suisse, elle est tout. Elle est poète, chanteuse, et actrice et danseuse. Donc elle est incroyable, elle respire la vie, quoi. Elle est très très lumineuse et elle vient chanter. Alors ça, c'est vraiment une chance qu'on a de la voir. Avec Gunnar Elvanger, qui est aussi un grand artiste, qui est plutôt bien connu là.
Ah, une petite interruption, mais c'est pas grave, hein, tu peux rentrer.
Tu peux y aller. Et du coup, ils viennent chanter ensemble. Ils viennent chanter ensemble à 20h30 le samedi soir. Et le dimanche, ils nous ont proposé de faire une porte ouverte en fait sur leur prochaine création. Un texte de Diana en fait qui parle de son rapport aux danses qui ont jalonné son parcours. Donc c'est très très riche. Elle parle de la danse classique, qu'est-ce que ça lui a apporté, le hip-hop, le flamenco, enfin voilà, c'est très très riche, très très organique et très généreux. Voilà, donc je vous invite fortement à venir, et c'est à dimanche 15h et c'est entrée libre.
Ok. Voilà. Toutes les infos, on les trouve sur le site. Ça me permet aussi de parler de ce site, sur lequel on trouve aussi une présentation de tous les spectacles de la compagnie. C'est www.compagniecanopée.com. Voilà. Et on pourra retrouver toutes les infos aussi sur le week-end. Et un dernier rendez-vous que je voulais évoquer, c'est un rendez-vous qui aura lieu le 25 et 26 avril, où tu joueras ici, au Théâtre du Tiroir, au Théâtre Jean Massé, le Pansement Schubert. C'est une lecture musicale avec un pianiste où il sera question du pouvoir thérapeutique de la musique.
Oui, ça vient d'un bouquin de Claire Oppert, qui est une musicienne à la base et qui maintenant travaille énormément dans les EHPAD et les centres pour autistes aussi. Bon, je pense qu'elle fait beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, dans ce livre, elle raconte comment la musique peut apaiser les soins. Donc accompagner les soignants dans leurs soins aux malades, mais aussi comment ça peut aussi accompagner la fin de vie, qui est un thème qui me touche énormément. Et du coup, ben voilà, c'est une lecture accompagnée par le piano de Nicolas Tassilly. Ça risque d'être très poétique et très puissant. Venez. Je me vends bien. Ou...
Ouais, bravo. La vendeuse a encore frappé. Merci Adèle pour cette heure passée ensemble.
Merci beaucoup.
Merci pour ton accueil ici. Un grand merci aussi à Margot, à l'autre radio, ainsi qu'à Joël pour la réalisation aux petits oignons de cette émission. Prochain rendez-vous en mai pour une émission live sur le magnifique plateau du Carré à Château-Gontier, donc avec trois artistes qui seront sur scène, trois groupes, trois artistes musicaux. D'ici là, faites de beaux rêves. L'émission.